Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RTL. Bonsoir, cher Thomas.
Bonsoir, Sidonie. Salut les curieux. Je suis sûr que la température va monter. Je vais pouvoir retirer mon cache-col d'ici quelques minutes au programme. Saviez-vous, merci. Saviez-vous que le monstre du Loch Ness a un cousin africain? Il s'appelle le Mokele Mbembe. On va vous raconter l'incroyable histoire d'un explorateur français qui a risqué sa vie pour trouver cet animal mythique. Et puis 1 milliard 300 millions d'hommes et de femmes se réclament de la religion qu'il a fondée il y a 14 siècles, mais qui était Mahomet. On vous emmène à la découverte du prophète des musulmans tout à l'heure dans la curiosité.
Et puis tout de suite,
quand on voit, on trouve que j'ai son petit qui fait que souvent l'on me fait les yeux. Ce qui me flatte beaucoup, je l'avoue.
Vous reconnaissez, c'est Miss Tinguette. Elle a fait les beaux jours du Casino de Paris et de d'autres cabarets durant les années folles. Elle a tellement marqué les esprits qu'elle est la star aujourd'hui d'une des comédies musicales de la rentrée. Elle renaît grâce aux gambettes et à la voix de Carmen Maria Vega dans la comédie musicale d'Albert Cohen. On l'écoute d'ailleurs souvent sur RTL.
Et on l'écoutera tout à l'heure.
Bien sûr, mais qui est Miss Tinguette? Comment est-elle devenue, malgré sa toute petite voix, la reine du musical? Pourquoi dit-on qu'elle a été espionne pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est vrai? Surtout, bonsoir Martin Péné.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, historien de la chanson française. Vous êtes absolument passionné par la vie, le destin de Miss Tinguette. C'est son vrai nom, Miss Tinguette?
Non. Bien sûr, c'est pas
son vrai nom. Quel est son vrai nom?
Son vrai nom, c'est Jeanne Bourgeois. Et elle est née à Enghien-les-Bains en 1875. Et en fait, ce nom de Miss Tinguette, elle l'aura plus tard, à peu près vers l'âge de 15 ans. Parce qu'à cette époque-là, elle allait prendre des cours de violon à Paris. Bon, parce qu'elle était d'une famille modeste et puis ses parents s'intéressaient pas tellement au spectacle, mais elle avait tellement envie elle était tellement attirée par tout ce monde-là qu'elle le connaissait pas bien. Mais par exemple, il y avait un cirque qui venait de temps en temps en Enghien-les-Bains sur la place du village, et donc elle allait voir le cirque. Elle était absolument fascinée par ça. Et puis, de fil en aiguille, un jour, elle a dit à ses parents qu'elle voulait devenir artiste. Alors là, ça a été d'abord des cris.
Le drame.
Ils faisaient quoi, ses parents?
Alors, ses parents, ils étaient très modestes. Ils étaient matelassiers. Voilà. Mais avant ça, même, ils étaient encore plus modestes. Ils étaient journaliers. Ils travaillaient sur les chantiers des travaux de couture pour la mère. Enfin, voilà. Donc, c'était pas du tout le monde du spectacle.
Donc, elle le découvre toute seule, Miss Tinguette, ce monde du spectacle.
Oui, c'est ça. Mais je dis grâce au cirque qui venait de temps en temps sur la place. Et puis, donc, il y a aussi qu'à Enghien, il y avait un côté pauvre, un côté riche. Elle habitait dans les quartiers pauvres, mais dans les quartiers très riches où il y avait des belles villas, il y avait des artistes qui habitaient là. Et puis, il y avait le casino. Et au casino, on montait des pièces de spectacle, des pièces de théâtre, des opérettes, des choses comme ça. Et donc, elle, ça la fascinait. Et puis, elle allait de temps en temps porter les factures pour les matelas dans les belles villas d'Enghien. Et là, elle a pu rencontrer des artistes très renommés qui habitaient là. Et donc, ça l'a fascinée. Et puis il y a quelques artistes qui l'ont prise un peu sous son aile et qui lui ont dit voilà comment il fallait faire pour devenir artiste.
Et c'est comme ça que Miss Tinguette découvre le musical chez ces artistes qui habitent en Enghien-les-Bains.
Oui, ça a été un premier pas. Et puis le deuxième pas, ça a été donc quand elle a dit à ses parents qu'elle voulait devenir artiste, eh bien ils lui ont dit tu vas commencer par apprendre la musique. Et donc comment est-ce qu'on apprenait la musique à cette époque-là? Soit on faisait du piano, soit on faisait du violon. Et donc c'était plus simple de faire du violon, donc on lui a acheté un violon et il a fallu qu'elle aille prendre des cours de violon à Paris. Et c'est là, dans le train pour aller à Paris, où elle y allait 3 fois par semaine, qu'elle a rencontré un monsieur qui habitait Enghien et qui écrivait des couplets pour les revues de l'époque, des revues satiriques, comme on faisait. Et ce monsieur l'a baptisé, en fait. C'est lui qui lui a dit « Si un jour tu fais du spectacle, eh ben, tu t'appelleras Miss Tinguette. »
D'accord, elle a gardé ce nom. Quand est-ce qu'elle monte sur scène pour la première fois?
Alors, pour être précis, c'est à l'âge de 18 ans. Et c'est d'ailleurs au Casino de Paris. Alors, le Casino de Paris de l'époque n'avait rien à voir avec celui qu'on connaît maintenant. C'était les programmes, faut imaginer, c'était une succession de numéros. Il y avait plein d'artistes qui se suivaient dans la soirée. Et elle a été engagée, évidemment, enlevée de rideau, vraiment au tout début, pour faire ses preuves. Et donc, elle chantait une chanson qui s'appelait « Je suis la môme du casino ».
Voilà. Et ça se passe comment? Elle est bien accueillie ou alors c'est difficile les débuts?
Bah, ça se passe pas trop mal. Bah, en fait, on faisait pas tellement attention à elle parce que bon, c'était vraiment le premier numéro. On attendait les suivants. Mais petit à petit, elle s'est imposée comme ça. Elle avait à la fois beaucoup de trac intérieurement et puis beaucoup d'aplomb extérieurement. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais finalement, elle a réussi un peu avec ses mimiques, avec ses. Déjà un peu en s'agitant beaucoup sur scène, à se faire remarquer.
Elle a pas une grande voix, donc elle met en avant le côté comique, c'est ça?
Entre autres, oui. Oui, oui. Et c'est surtout, elle aimait apostropher les spectateurs, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, tout de suite, l'a fait adopter. C'est qu'elle avait un excellent contact avec le public. Et donc, elle se forçait un petit peu, bien sûr, pour vaincre son trac. Mais ça a été ce qui l'a aidé.
Est-ce que Miss Tinguette, c'est une jolie femme?
Ouais, c'est une femme qui a beaucoup de charme, oui. C'est clair qu'elle avait du peps, quoi. C'était, je sais pas si c'était vraiment les canons de beauté de l'époque, mais elle laissait personne indifférent. Et d'ailleurs, quand elle était adolescente, elle avait toute une cour de garçons qui la suivaient. Elle était très très adorée, quoi. En fait, c'est ça qui a fasciné tout le temps, tout au long de sa carrière. C'est sa présence. Sa présence sur scène, ça a été quelque chose d'essentiel.
Elle va jouer aussi au cinéma muet, évidemment,
oui, à l'époque,
45
oui.
films.
Oui, alors faut savoir que les films à l'époque, c'était des films assez courts. Hein. On tournait des films qui duraient 10 minutes et qui, dans un programme de cinéma, on n'avait pas un film. On avait, ça durait toute une soirée et on avait, par exemple, 5 petits films, puis un autre acte et puis après un grand film. Et donc, elle a tourné comme ça, des petits films de 10 minutes, puis après, des films plus importants. Et par exemple, elle a joué dans la première version des Misérables en 1913, un film à épisode, et là, ça a duré longtemps. Donc, c'était un film qui durait toute la soirée.
Jeanne Bourgeois est devenue Miss Tinguette, la petite fille d'Enghien-les-Bains, et maintenant la star de Paris. Manque plus qu'une belle histoire d'amour pour rentrer dans la légende. On vous la raconte dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Vous voulez des chansons? Bravo. Moi, je les adore, mes chansons.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Ça vous plaît?
Mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Paris. Ah, ça, c'est Paris.
C'est Paris.
C'est Paris.
C'est une blonde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Miss Tinguette chante Mon homme, c'est en 1920. On raconte l'histoire de la reine, de l'impératrice du musical. C'est qui son homme, Martin Penet?
Incontestablement, c'est Maurice Chevalier, qu'elle a rencontré en 1911 sur la scène des Folies Bergères, parce que là, elle était passée du café-concert au musical. Et ça, elle l'a fait en quelques années, en passant par le théâtre de boulevard, qui à l'époque était très très prestigieux, au théâtre des variétés, et qui avait une sacrée troupe. Et puis aussi par le cinéma muet, on en a dit deux mots. Donc toutes ces étapes l'ont beaucoup formée, et lui ont appris à devenir une vraie comédienne, en plus d'être une chanteuse, une danseuse, de savoir tout faire. Et c'est ça qu'il faut pour faire du musical, il faut vraiment être polyvalent. Et donc, il y a eu une étape importante en 1908 qui était la valse chaloupée. Ça a aussi créé son personnage. Là, elle dansait avec Max Derly. Et la valse chaloupée, c'était très, très canaille. C'était déjà quelque chose qui a marqué sa carrière pour la suite, c'est-à-dire ce côté très faubourien, un peu brutal comme ça. Et puis, donc, 3 ans plus tard, la rencontre avec Maurice Chevalier, qui à l'époque était un comique pas très remarqué ni remarquable.
Il est moins connu qu'elle ?
Beaucoup moins connu qu'elle, oui, bien sûr. Et il était son partenaire, simplement. Et ils ont été remarqués dans un numéro qui s'appelait La valse renversante. Et ça se passait. Enfin, c'était une scène incroyable où il terminait enroulé dans un tapis. Bon, je ne raconte pas les détails parce que c'est trop long. Par contre, je vais raconter les détails de la répétition parce que, bien évidemment, à force de répéter ce numéro,
ça crée des liens.
Ça crée des liens. Voilà, bref, ils se sont échangés leur premier baiser. Et voilà, ça a été le début d'une des plus belles histoires d'amour du musical qui a duré plus de 10 ans. Puisqu'ils ont traversé toute la guerre de 14, enfin le 14-18, la Grande Guerre, et puis finalement ils se sont séparés plusieurs années après. Et la raison de leur séparation, c'était que Maurice Chevalier, il en avait un peu marre de servir de faire-valoir à Miss Tinguette. Il voulait son nom aussi gros qu'elle sur l'affiche.
Donc la carrière plus fort que l'amour, voilà. Pour Maurice Chevalier.
Attendez, là vous allez trop vite, parce qu'avant de parler de la séparation, il y a plein d'autres étapes.
Mais on a fait des choses, Miss Tinguette.
Mais oui, mais comme on vient d'entendre la chanson Mon homme, et que cette chanson, elle l'a chantée en 1920, au moment de leur séparation, c'est pour ça que je voulais vous expliquer. C'est la chanson qui a symbolisé tout le reste de sa carrière, la perte de Chevalier.
Tiens, d'ailleurs, question sur ses voix. Elle s'explique par le côté aigu, par les enregistrements de l'époque, ou elle avait vraiment une voix aiguë? à ce point-là?
Elle avait une voix un petit peu nasale, elle avait une voix très faubourienne en fait, et un peu canaille. Alors c'est vrai qu'elle avait une voix un petit peu aiguë, mais d'abord il faut voir qu'avec le temps, elle est devenue de plus en plus grave, ce qui est assez commun. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elle maîtrisait parfaitement l'image qu'elle dégageait, et elle avait conscience de ce côté un petit peu canaille. Elle disait, on a le droit d'être canaille, mais jamais d'être vulgaire. Et ça, je trouve quand même que c'est une sacrée science du métier.
Miss Tinguette va devenir espionne pendant la Première Guerre mondiale pour libérer son homme, Maurice Chevalier.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai?
Oui, alors, bon, les étapes, c'est qu'en fait, Maurice Chevalier a été mobilisé en 1914, comme beaucoup de soldats, et qu'il a été fait blesser et prisonnier. Donc il a été blessé peu après le début de la guerre, en août 1914. Il a été fait prisonnier, envoyé en Allemagne, pas très loin de Berlin, dans un camp qui s'appelait Altengrabau. Et il y est resté pendant des mois et des mois et des mois. Sauf que lui, il avait la chance d'avoir l'appui de Miss Tinguette, ce que n'avaient pas tous les autres prisonniers. Et elle n'a eu de cesse de le faire libérer. Et elle a fini par y arriver, mais ça a mis longtemps quand même. Elle l'a fait libérer en octobre 1916. Alors vous voyez, donc il est quand même resté 26 mois prisonnier.
Comment elle a fait Miss Tinguette pour faire libérer Maurice Chevalier? Elle a usé de ses charmes, par exemple?
Indirectement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mise quand même au service de l'État français, parce qu'elle a voulu rendre service, et la meilleure façon de rendre service, c'était de faire du contre-espionnage. Et donc là, on a quand même des preuves que j'ai retrouvées dans les archives du ministère de l'armée, par exemple à Vincennes. Et donc, on a des documents qui attestent qu'elle a fait un certain nombre de missions, en Suisse notamment, pour pouvoir avoir des appuis. Bon, alors ça, c'était la première chose. Et parmi ces missions, il y en avait une auprès du roi d'Espagne, Alphonse XIII, qui avait été, avant la guerre, un de ses amants.
Très bien. Et donc, elle obtient...
Et donc, elle a obtenu, grâce à Alphonse XIII, qui était roi d'Espagne, et l'Espagne étant neutre, avoir un contact direct avec Guillaume II en Allemagne, l'empereur, qui donc apparemment a fait agir les personnes qu'il fallait pour faire libérer Maurice Chevalier du camp prisonnier.
Et ça se sait à l'époque, parce que c'est un couple people quand même, Miss Tinguette et Maurice Chevalier. On le sait, on sait ce qu'elle a fait, on connaît cet acte de bravoure de Miss
Tinguette. On l'a connu uniquement à demi-mot. Un peu avant la fin de la guerre, en 1918, parce qu'il y a eu un procès retentissant de l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque, à qui on a reproché tout un tas de choses, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais entre autres d'avoir engagé des espions qui étaient quand même pas très très sérieux, comme Miss Tinguette. Et là, son nom a été jeté en pâture en pleine séance au tribunal. Et donc là, les journalistes, évidemment, se sont emparés de la nouvelle. Il a fallu qu'elle se justifie, qu'elle explique un peu qu'elle avait fait quelques missions. Mais bon, elle ne voulait pas trop rentrer dans les détails. C'est comme ça que l'affaire a été dévoilée.
Miss Tinguette, une femme courageuse, douée, amoureuse. Elle aime Paris et Paris l'aime. Et d'ailleurs, dans le monde, ça se passe comment? On vous raconte tout ça sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Qui plaît aussi à tout le monde à côté de moi, Sidonie, qui danse, qui fait sa Miss Tinguette là, dans le studio RTL. Miss Tinguette est avec nous ce soir. On l'écoute, on découvre sa vie grâce au journaliste et historien Martin Pennet qui publie Miss Tinguette, la légende du musical chez Omnibus. Très beau livre d'images. Alors, Miss Tinguette chante Paris, c'est la ville qu'elle aime?
Ça, Miss Tinguette, elle est vraiment associée à Paris, ça c'est évident. D'abord, elle a énormément chanté. Enfin, c'est vrai qu'elle n'est pas née à Paris, mais bon, comme elle y a grandi quasiment et qu'elle y a traîné ses savates étant adolescente et qu'après elle y a passé toute sa carrière, sauf quand elle partait à l'étranger quand même. Donc oui, elle a vraiment été une incarnation de Paris.
Même sa gouaille incarne Paris
bien sûr.
Et est-ce qu'elle a participé à la popularité mondiale de Paris, est-ce qu'on pourrait dire ça?
Oui, je pense, parce que quand même Paris a été une plaque tournante qui attirait tous les étrangers, notamment dans les années folles, c'est-à-dire entre 1919 et 29, ça a vraiment été une capitale très très cosmopolite. Et le musical, ça a été vraiment son âge d'or. à ce moment-là. Et il fallait une déesse pour son tâche d'or, et c'était Miss Tinguette. Donc, on peut dire quand même qu'à ce moment-là, ne serait-ce que par cette chanson qu'on vient d'entendre, mais bien d'autres, qui évoquaient aussi Paris, ça a été un des symboles de Paris, au même titre que la Tour Eiffel à cette époque-là, oui, ça c'est sûr.
Est-ce que Miss Tinguette va se produire à l'étranger ?
Oui, à de maintes reprises. Alors, elle allait très souvent à Bruxelles, par exemple, bon, ça c'était pas loin, un peu en Suisse aussi, en Afrique du Nord, lors de ses tournées, et puis surtout, il y a eu une grande tournée en Amérique du Sud et en Amérique du Nord en 1923-24 où elle a quand même obtenu une consécration non négligeable puisqu'elle a fini avec une revue qui s'appelait Innocent Eyes après avoir tourné dans tout l'ouest des États-Unis, tout l'est des États-Unis. Elle a terminé à New York.
À Broadway ?
Oui, oui, au Winter Garden. Et là, elle a joué quand même pendant 2 mois. Donc,
et elle a du succès ?
Et elle avait du succès, oui. Et alors après, elle est revenue à Paris, tout auréolée de gloire. Et donc là, elle est devenue l'impératrice du Moulin Rouge, directrice artistique carrément de cet établissement de 1925 à 28. Et après, elle est revenue au Casino de Paris. Uh-huh. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a fait des tournées européennes. Là, il y a eu 2 très grandes tournées, bien il y en a eu d'autres encore après, mais là, les 2 très grandes tournées, c'est en 1930 et 1932, où là, elle a vraiment sillonné à la fois la France et toute l'Europe centrale, l'Europe du Nord. Donc, elle était vraiment connue partout.
Qui sont ses concurrentes ? Je parlais tout à l'heure de la ceinture de banane, évidemment, de Joséphine Baker. C'est l'une de ses concurrentes ?
Oui, alors, mais ça s'est fait en plusieurs temps, parce qu'on pense toujours qu'elles ont été concurrentes dès le départ. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans les 2 livres. C'est que...
Et vous sortez une bio qui va bientôt paraître aux éditions thaïlandines.
Absolument, et donc c'est un peu le complément du livre d'image en fait. Hein. Il y a le livre de texte d'un côté, le livre d'image de l'autre. Et donc Joséphine Baker, elle est arrivée à Paris en 1925 avec la Revue Nègre. Mais elle avait 19 ans à l'époque. Elle parlait pas français. Elle dansait le Charleston autant qu'elle pouvait. Elle faisait des tas de contorsions. Bon, elle impressionnait énormément parce que elle faisait partie de toute une troupe de Noirs qui arrivait de New York et on n'avait jamais vu ça à Paris, à ce degré-là. Donc, ça a eu beaucoup d'effets. Mais bon, on était très très loin de ce qui se passait dans les grands music halls parisiens. C'était pas du tout la même chose. Donc, il y avait un côté un peu exotique, si vous voulez. Donc, ça fascinait. Mais on peut pas dire qu'à cette époque-là, ça concurrençait vraiment directement Miss Tinguette. C'est après qu'elle l'a concurrencé vraiment, parce que, donc, il y a eu la Revue Nègre en 25. En 26, elle était aux Folies Bergères et c'est là qu'elle a porté sa fameuse tenue de ceinture de banane. Et non pas dans la Revue Nègre, comme on croit souvent. Enfin, bon, peu importe. Et après, elle est partie en tournée pendant plusieurs années, sous la férule de son agent de l'époque, qui avait décidé d'en faire une star de musical. Et donc, elle a tourné en Europe centrale, tournée dans toutes les grandes capitales, où elle a fait scandale partout, parce que voir débouler une noire comme ça à Vienne, à Prague, enfin dans toutes les capitales, elle a fait scandale, vraiment.
Bon, il faut revenir à Miss Tinguette.
Oui, on va revenir à Miss Tinguette. Ne vous inquiétez pas. Elle a tourné partout, elle s'est formée, et quand elle est revenue en 1930, là, elle était vedette du Casino de Paris, dans la revue Paris qui remue, où elle a chanté J'ai deux amours, c'est là la création de J'ai deux amours, son énorme succès. Là, elle est devenue concurrente de Miss Tinguette parce qu'elle était capable de mener une revue, elle avait appris pendant toutes ces années à être une meneuse de music hall. Et là, oui, on peut dire qu'elle était concurrente. Puis surtout, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 30 ans de moins, vous imaginez ?
Bah oui.
Ah oui. Alors, donc,
la partie était inégale. Voilà. Miss Tinguette, ses gambettes, sa voix parigote, on en parlait, ses grands costumes en plumes. Comment a-t-elle arrêté sa carrière ? Comment a-t-elle vécu les dernières années de sa vie ? On vous raconte les derniers pas de la reine des années folles dans un instant sur RTL.
On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça.
Vous écoutez RTL.
D'abord, faire un programme.
Bonjour mon petit Fernand, fidèle habitué du 3e rang.
C'est pas vous qui allez la chanter, c'est moi.
Ça c'est Paris, ça c'est Paris.
La curiosité est un vilain défaut.
Comme vous parlez bien quand même.
Hey, la veille de tout petit poton Valentine.
C'est joli, hein?
Ah oui.
Eh ben allons-y.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je vous ai reconnu, madame, à vos jolies photos.
Miss Tinguette, on découvre la vie de la diva gouailleuse des années folles avec l'historien Martin Penet. Finalement, elle a fait une grande carrière, Miss Tinguette, une longue carrière.
Ah bah oui, c'est un des records quand même, puisqu'elle a commencé, donc je disais, à 18 ans, en 1893, au Casino de Paris, tout un symbole, même si à l'époque, elle n'était rien du tout, hein, mais c'était vraiment une toute débutante. Et elle a terminé en 1951, à peu près, donc... Vous voyez, ça fait quand même une sacrée carrière.
Comment ça s'arrête?
Ouais. C'est quasiment 60 ans de carrière. Maurice Chevalier a fait mieux, il a fait 68 ans, lui. Parce qu'il a débuté plus jeune, il a débuté à 12 ans.
Oui, puis vous voulez faire mieux que Miss Tinguette, on a bien compris. Hein. Comment s'arrête la carrière de Miss Tinguette?
J'ai envie de dire, elle s'arrête par la force des choses. Parce qu'elle, elle n'avait aucune envie d'arrêter. C'était sa vie. C'est vraiment, il fallait être sur scène. Le public avec ça qui comptait pour elle. Il fallait, enfin, à part ses quelques relations sentimentales, et notamment Maurice Chevalier. Mais c'était vraiment. Elle a consacré sa vie à son métier.
Donc celle qui décide d'arrêter ou pas?
Non, c'est parce qu'en fin de compte, en 51, elle a quand même déjà 75 ans. Donc là, elle commence à être un peu fatiguée. Et donc là, elle a mal aux jambes, elle commence à avoir des trous de mémoire. Enfin bon, donc en gros, ça devient difficile. Donc,
il faut parler aussi, je vous interromps, de sa relation avec le public. Vous disiez tout à l'heure qu'elle avait une façon à ses débuts d'haranguer. Les spectateurs.
Ah ben ça a été ça toute sa vie.
Dans votre livre, je vous interromps parce que j'ai envie de citer cette phrase de Miss Tinguette. Mon métier, c'était ma vie privée, et ma vie privée, c'était mon métier. J'étais la chose du public, elle dit.
Ah ben oui.
C'est étonnant cette phrase.
Oui, la chanson qu'on vient d'entendre, Je vous ai reconnu, elle date de 1938. Et c'est une sorte de prophète. D'ailleurs, c'était sa chanson d'entrée au Casino de Paris, là encore. Elle était revenue au Casino de Paris. Mmh. Et quand elle dit à madame, je vous ai reconnu, etc. Mais elle s'adressait vraiment au public.
Elle reconnaît quelqu'un dans le public, c'est ça?
C'est un peu imagé, bien sûr. Mais si vous voulez, je crois que ça résume tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson, parce que c'est vraiment une chanson écrite sur mesure, quoi. D'ailleurs, elle en a à moitié écrit les paroles, parce qu'elle co-signait une partie de ses chansons à la fin de sa carrière. Donc, c'est presque autobiographique, quoi.
Ces chansons ont eu beaucoup de succès, Miss Tinguette?
Ah bah oui, elle a quand même un grand nombre de tubes à son actif, hein, qu'on connaît encore maintenant. Vous avez passé Mon Homme, vous avez passé Ça c'est Paris, vous avez passé C'est vrai, on aurait pu passer Je cherche un millionnaire, où là aussi, il y avait un contact avec le public, parce qu'elle descendait carrément dans la salle pour aller, soi-disant...
chercher
un millionnaire. Et qu'elle faisait monter sur scène, en fait, c'était...
Qu'elle ne le trouvait pas? Si, quand même.
Il y avait un boy qui donc ça donnait un numéro très très drôle.
Est-ce que Miss Tinguette a été une femme heureuse?
Je pense oui, avec son métier, oui, ça, c'est évidemment.
Qu'est-ce qu'elle disait de sa vie? Elle en parlait?
Elle en a parlé dans ses mémoires. Donc, je crois que oui. Enfin,
heureuse sur scène.
À mon avis, oui. Enfin, de toute façon, quand on a une carrière comme ça et avec un tel parcours, c'est difficile d'être malheureux, il me semble.
On ne l'a pas dit, elle a eu des enfants ou pas?
Elle a eu un fils. Elle a eu un fils qui est à l'âge de 26 ans et qui était, c'est drôle parce que ça rappelle un peu Offenbach, c'était un Brésilien, un riche Brésilien qui était diplomate. Le père était diplomate et donc elle a rencontré ce riche Brésilien et elle a eu un enfant qu'elle a en partie élevé, mais pas complètement, qui a grandi en partie au Brésil, qui a été médecin et qu'elle adorait et qui est revenu après s'installer en France. Et d'ailleurs, il a un peu contribué aussi à l'écriture des chansons. Enfin bon, c'était quelqu'un important dans sa vie, bien sûr, même si bon, elle n'a pas pu s'en occuper peut-être autant qu'elle aurait voulu. Étant artiste, c'est pas toujours facile. Ouais.
Qu'est-ce qui reste de Miss Tinguette aujourd'hui? Alors vous allez me dire, la preuve, une comédie musicale qui fait l'événement depuis la rentrée à Paris, donc elle est dans l'imaginaire collectif.
C'est bien qu'on parle d'elle, mais ça c'est sûr. Je pense qu'il en reste une légende. Il en reste quand même. En fait, pour moi, elle a inventé le musical moderne. Parce que c'est quand même, parce qu'elle a grandi avec cette histoire du musical. C'est-à-dire que ça s'est fait petit à petit, hein, en quelques décennies, et ça a été exactement parallèle à sa progression à elle. Donc on peut dire qu'elle a mis au point tous les canons du musical, d'être à la fois une déesse empanachée, mais aussi une pauvre gosse de faubourg sur scène, hein, je veux dire, d'incarner aussi bien le côté réaliste que le côté merveilleux, que le côté comique, que le côté danseuse. Comme j'ai dit, il fallait tout faire. Bon, et donc. Et puis l'escalier, et puis les plumes, enfin les strass, enfin toutes ces histoires-là qu'on connaît par cœur maintenant, tout ça c'est né avec elle. Bon, elle n'était pas seule, bien sûr, il y en avait d'autres, des vedettes de musicals, mais elle a su quand même incarner ça mieux que tout le monde. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle a fixé un peu le genre. Et puis après, il y a eu toutes les héritières qui finalement ont repris le flambeau.
Mais sont ces héritières pour vous, Martin Péné?
Il y en a eu plusieurs.
Les héritières de Miss Tinguette?
Les grandes qui ont succédé, c'est, dont on se souvient, c'est bien sûr Lynn Renault, c'est Zizi Jeanmaire. Il y a eu Mick Michel aussi qui est passé au Casino de Paris. Il y a eu, on pourrait encore en citer d'autres, Lisette Malidor, on pourrait citer Liliane Montevecchi. Enfin voilà, des différentes artistes qui ont été importantes.
Si aujourd'hui on veut revivre en dehors de la musique de Miss Tinguette qu'on peut réécouter, et la comédie musicale, si on veut redécouvrir, repartir sur les traces de Miss Tinguette, où est-ce qu'il faut aller? À Paris, Par exemple, il y a des musées, il y a des lieux de pèlerinage.
Là, vous touchez un point important. Il n'y a pas de musée de la chanson en France, et c'est bien dommage. Et pourtant, la chanson, c'est quand même l'art français par excellence.
L'art populaire par excellence.
Et il y a une tradition de la chanson en France qui est absolument vivace et essentielle. Et là, moi, je plaide depuis, et je ne suis pas le seul à dire que ce patrimoine de la chanson n'est pas suffisamment pris en compte par nos édiles.
Il paraît que vous êtes collectionneur, Martin Penney. Vous avez des pièces qui ont appartenu ou qui rappellent Mistinguett?
Oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance, quand j'ai fait toutes mes recherches là, de rencontrer des gens de sa famille pour publier ses livres sur elle. Et donc, j'ai eu accès à beaucoup d'archives inédites totalement et qui donc ont nourri toutes mes recherches. Et puis aussi, j'ai chiné, parce que j'adore chiner.
Alors, un exemple, un objet.
Un objet, j'ai des gants qui lui ont appartenu, par exemple.
Ils sont comment?
Ils sont blancs.
Ils sont blancs, ils sont fins.
Oui, absolument.
Et c'est émouvant d'avoir un objet comme ça ayant appartenu à Mistinguett?
Oui, je trouve ça très émouvant. Et puis sinon, j'ai surtout beaucoup de souvenirs de sa carrière, donc des disques, des photos, des programmes, des partitions, toutes sortes de documents qui permettent d'avoir des informations précises et de ne pas raconter des légendes, de raconter vraiment ce qu'elle a été. Ce que j'ai essayé de faire.
Justement, pour se plonger dans sa vie et se régaler, vous sortez bientôt une très grosse biographie passionnante aux éditions Thaïlandais. Et puis, ça, ce sont pour les mots. Et puis, à l'image aussi, une très belle revue, on peut dire, une revue d'images. Mistinguett, la légende du musical, aux éditions Omnibus. Merci infiniment.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Vous écoutez RTL.